Mes chers amis, pour l'instant, personne ne s'est approché pour nous dire qu'il avait ce soir un témoignage. Alors nous ne voulons rien forcer, mais nous voulons continuer de prier et d'attendre que peut-être l'une ou l'autre d'entre vous soit poussé par le Saint-Esprit pour nous apporter ce que le Seigneur aura mis dans son cœur. De toute façon, vendredi est une réunion entièrement consacrée au témoignage de ce que vous avez pu éprouver dans ce temps. Alors nous voulons laisser l'Esprit de Dieu agir. Nous continuons en cette soirée du 3 juillet, notre thème qui est une parole du Christ ressuscité, vous serez mes témoins. Et nous voulons tout d'abord nous recueillir devant le Seigneur. Quand nous pensons à ton immense amour, Dieu notre Père, nous voudrions pouvoir t'aimer en retour de tout ce que tu nous as témoigné en nous donnant ce que tu avais de plus cher à ton cœur, ce qui faisait tes délices, parce que tu désirais que tes créatures rebelles puisse elle aussi être rachetée et connaître ce bonheur qui était le tien de toute éternité et que tu n'as pas voulu garder pour toi-même. Oh, nous voulons te demander que le Saint-Esprit soit réellement à l'œuvre, que nous ne parlions pas du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit parle en nous, ouvre nos cœurs et que nous puissions être mis en contact avec celui que ton esprit veut révéler en chacune de nos vies pour que le monde voie que le Christ est vivant et qu'il n'est pas retiré au fond du ciel seulement, mais qu'il habite dans nos cœurs. Nous te demandons la grâce de pouvoir parler comme oracle de Dieu et te servir par la force que toi-même tu fournis. Notre attente est en toi. Nous te prions de faire une œuvre dans nos cœurs ce soir, de briser nos résistances, que nous n'ayons pas la nuque raide devant la croix, mais que nous soyons brisés et unis. Tu ne résistes qu'aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Et tu voudrais tellement nous bénir que nous puissions te donner la joie de nous faire du bien, puisque tu ne désires que cela, ô Père, au cœur de mère, en Jésus. Amen. Bien, mes amis, nous vous avons dit que notre toile de fond serait le livre des Actes, et ce soir, nous arrivons donc au chapitre 5e. Nous avons donné des titres, ou suggéré plutôt des titres, pour nous rappeler le contenu de ces premiers chapitres que nous avons étudiés. Je les rappelle, chapitre 1er, l'Ascension, Le chapitre 2, cet événement historique qu'a été la Pentecôte. Chapitre 3, ce miracle extraordinaire de Pierre et de Jean, mais que nous avons intitulé « Ni argent, ni or ». Et nous sommes arrivés à ce chapitre 4 ce matin que nous avons appelé « Première arrestation ». Alors, je vous demande, maintenant que nous allons écouter le chapitre 5, quel titre donneriez-vous à ce chapitre qui a 42 versets? Il est bien évident que les uns peuvent donner un titre et les autres un autre. C'est uniquement pour notre étude personnelle et pour aider notre mémoire si souvent défaillante. Et voyez-vous, quand la parole de Dieu nous a parlé et qu'il nous reste vraiment un texte, eh bien, ce texte s'illumine, nous rappelle ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière. Et c'est ainsi que l'on peut grandir dans la connaissance de la Bible. Je pense souvent à cette exhortation de Paul aux Colossiens. Il disait que la parole du Christ habite en vous avec abondance. Il faut que des couvertures de ce livre, cette parole, soient écrites dans nos cœurs, nous habitent. Et alors, qu'est-ce qui se produit? Le Saint-Esprit, qui devient notre mémoire, nous rappelle dans le quotidien une parole dont nous avons besoin pour recevoir la lumière nécessaire sur notre sentier. Comme le dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous ne serons plus de ceux qui ouvrent la Bible dans un moment difficile pour piquer un verset. Ça ne réussit pas toujours. Mais dans notre peine ou dans la décision que nous devons prendre, alors que nous hésitons, nous crions au Seigneur, inspire-moi Seigneur, donne-moi une parole. Et le Saint-Esprit vous rappelle une parole qui revient, qui monte de votre cœur, qui revient à votre mémoire, et vous vous sentez porté, soutenu, consolé, éclairé, et vous prenez une décision qui vient de la parole. Et l'énergie du Saint-Esprit vous fait agir selon ses pensées. Voyez-vous, avoir la vie éternelle, c'était quotidiennement en relation avec Dieu, avec le trône de la grâce. C'est vraiment l'échelle de Jacob, où Jacob, dans son sommeil, voyait les anges qui montaient et qui descendaient. Nous devons arriver à cette vie de prière où nos demandes montent vers le Père et où nous nous attendons à recevoir les réponses de son cœur, là où nous nous trouvons. Et c'est une bénédiction immense. C'est réellement la vie éternelle qui est déjà commencée. Et pour ceux qui n'étaient pas là ce matin parce qu'ils se sont occupés de nos jeunes, des enfants, nous voulons simplement rappeler comment au chapitre 4, les apôtres Pierre et Jean ont dû connaître ce ce que Jésus leur avait annoncé quand il les avait appelés, que le chemin ne serait pas facile, qu'ils seraient arrêtés, qu'on les frapperait et que l'on les traiterait comme on l'avait traité lui-même. Il disait à ceux qui voulaient le suivre qu'il fallait qu'ils apprennent à renoncer chaque jour à eux-mêmes pour prendre leur croix et le suivre. Et cela ne voulait pas dire que parce qu'ils avaient fait un miracle, que le monde allait les agréer et les accepter. Il y en a qui croiraient, mais ce miracle lui-même allait susciter une opposition semblable à celle que leur maître avait connue. Ils allaient entrer dans cette identification aux souffrances de Christ. Et comme le Christ avait souffert, eux aussi, disciples de l'homme de douleur, allaient entrer dans cette communion de ses souffrances. Et voyez-vous, pour entrer dans la communion de ses souffrances, il faut réellement connaître la puissance de sa résurrection. Je le dis souvent, nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit, non pas tellement pour faire des miracles, mais pour pouvoir vivre aujourd'hui en chrétien. Si nous n'avons pas cette puissance, nous ne pouvons pas vivre en chrétien. C'est impossible dans l'environnement qui est le nôtre, sans la puissance du Saint-Esprit, nous ressemblons étrangement au monde. Ce qui se fait dans le monde, se fait dans nos églises, dans nos assemblées. C'est quelque chose de terrible, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de changement entre ceux qui se disent chrétiens, baptisés, évangéliques, et des gens du monde, même des athées, qui sont peut-être très moraux, et qui ne font pas toutes les bêtises que l'on voit faire à des gens qui se prétendent sauvés, et qui, comme nous le disions, ont toujours besoin, à droite et à gauche, d'un appui et d'un soutien, comme si le Christ n'était rien pour eux. Alors que le Christ doit être tout pour nous, il doit être tout pour vous. Nous avons besoin les uns des autres, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais vous devez pouvoir être pour les autres une aide et un appui. Il faut que vous deveniez majeur et que, ayant atteint cette majorité, vous puissiez devenir dans votre communauté une force et un appui. Ne comptez pas sur les autres, comptez sur le Seigneur. Et c'est sa personne qui doit grandir en vous. Jésus a été enfant, adolescent et homme fait. Et quand la vie du Seigneur commence en nous, il y a l'enfance du Christ en nous, il y a l'adolescence du Christ, mais nous devons tendre vers cette maturité et grandir dans sa connaissance, de sorte que le Christ soit tout en tous. Oh, comme j'aime cette expression. Et voir dans mes frères le Christ tout en chacun. Le Christ tout en tous. Alors, ce ne sont plus les défauts que l'on souligne, mais l'on contemple dans la vie de ceux qui nous entourent quelque chose de la beauté, de la bonté et du Seigneur. Mais les apôtres ont dû vivre l'enseignement que Jésus leur avait donné. Et c'est ce que nous avons réalisé en méditant le chapitre 4. Ils ont été arrêtés, ils ont dû comparaître devant le tribunal comme Jésus le leur avait annoncé. Et ils ont fait l'expérience que, quand on les a interrogés, eh bien, le Seigneur a parlé par leur bouche. Ils n'ont pas eu besoin de préparer leur défense. Sur l'heure, au moment même, ils ont pu déclarer ce que l'Esprit leur communiquait. Et ils ont si bien parlé que leurs adversaires n'ont pas pu trouver vraiment une occasion d'accusation contre eux. De sorte que ils ont voulu simplement leur interdire de parler au nom de Jésus. Et maintenant, pour eux, c'était une impossibilité de parler d'autre chose que de Jésus. De ce que le cœur est rempli, la bouche parle, alors ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas ne pas parler du Seigneur en qui ils avaient trouvé la vie et la paix. Quand on les a relâchés, après leur avoir fait cette défense, qu'ont-ils fait? Ils sont retournés chez les leurs, et c'est là que nous voyons ce que nous devrions faire quand nous avons eu une difficulté. Ils ont partagé ce qui leur était arrivé, ils ont raconté à ceux qui n'avaient pas passé par les mêmes épreuves, mais qui étaient des croyants, ce qui leur était arrivé, et est-ce qu'ils ont délibéré en disant, eh bien voilà, nous voulons quitter cette ville? Ils se sont mis à prier. Quand ça ne va pas, frères et sœurs, entrons dans la prière. Faisons comme Daniel qui allait trouver ses trois amis dans une certaine détresse. Et ensemble, tous les trois, ils se mettent à prier avec Daniel. Et la réponse est donnée à Daniel. Voyez-vous, n'attendez pas la réunion officielle de prière. À ces réunions-là, vous n'allez pour ainsi dire jamais, hélas, trois fois hélas. Mais quand le besoin se fait sentir, alors oui, vous allez à la réunion de prière, mais parce que vous avez une certaine peine. Mais pourquoi n'êtes-vous pas de ceux qui savent prier ensemble, qui savent peut-être déranger un ami et un frère pour que vous soyez aidés dans le combat? Le Seigneur vous donnerait des exaucements merveilleux. Ils ont prié et ils ont donné d'abord gloire au Seigneur. Ils ont dit, tu es le maître, tu es le chef. Nous chantons tellement de cantiques qui sont merveilleux, où nous parlons de la beauté, de la nature, du Créateur. Je sais qu'on aime beaucoup un certain cantique qui parle surtout du Créateur. Mais, mes amis, si c'est vrai qu'il est le Créateur, il peut tout, et rien ne peut s'opposer à ses desseins. Et ce qui me frappe, c'est que les prières des apôtres, maintenant, les prières de l'Église primitive dans les Actes sont des prières inspirées par la Bible, inspirées spécialement par les psaumes. Ils se mettent à comprendre les psaumes et ils parlent au Seigneur de ces psaumes et ils voient que tout ce qui s'est passé avait été prédit et alors ils ont une intelligence pour prier. On leur a interdit de parler au nom du Seigneur, et quel a été l'ordre que Jésus leur a donné? C'était allez et faites disciples toutes les nations. Allez prêcher. L'ordre, c'était l'ordre du Seigneur. Et cet ordre, le Seigneur leur avait donné par le Saint-Esprit. Comme ils avaient le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ne pouvaient pas résister. On ne peut pas résister quand l'appel vient du Saint-Esprit. Mais quand l'appel vient seulement d'un prédicateur, eh bien, on peut résister après. Mais si l'appel vient du Saint-Esprit, on ne peut pas résister. Alors, dans la prière, ils demandent justement au Seigneur de leur donner toute hardiesse pour parler avec assurance. Et dans le moment où ils prient, eh bien, le ciel leur répond, il y a un ébranlement qui se produit, un bruit qui vient d'en haut, et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous, tout ce qui pouvait être encore doute dans leur cœur est sorti. C'est pas le Saint-Esprit qui est redescendu, le Saint-Esprit, il est sur la terre. Nous sommes dans l'économie du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était auprès du Père. Il était donné individuellement à certaines personnes et le Saint-Esprit les saisissait momentanément pour agir pour Dieu. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas encore sur la terre parce que l'Église n'était pas formée. Mais une fois que l'Église a été formée, le Saint-Esprit est dans l'Église. Et alors, quand il est parlé de cette plénitude qui les remplit, eh bien, c'est cette œuvre que tout à coup, les croyants s'étant humiliés et s'étant débarrassés de leurs doutes, de leur orgueil, ayant confessé leurs péchés, le Saint-Esprit peut prendre toute la place par la puissance qui agit en nous. La puissance, elle est en nous. Elle est en nous. C'est pas demander davantage du Saint-Esprit. Si vous avez cru, si vous avez accepté Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a opéré votre conversion, si la conversion est réelle. Et alors, ce Saint-Esprit vous amène à être disponible pour Dieu, et étant disponible pour Dieu, son Esprit peut réellement vous remplir, occuper toute la place. Voyez-vous, on n'a pas besoin de recevoir davantage du Saint-Esprit. On a besoin de demander au Seigneur qu'il nous débarrasse de tout ce qui prend la place pour que le Seigneur, enfin, occupe la première place dans nos vies. Et quand le Seigneur occupe la première place dans nos vies, la plénitude de l'Esprit se réalise. Et quelquefois, je l'ai dit, nous avons besoin d'une déménageuse pour débarrasser tous les vieux meubles qui sont encore en nous, afin que le Seigneur puisse en nous s'établir avec le mobilier du ciel, parce qu'il voudrait habiter dans ses meubles, lui. Il voudrait habiter dans ses meubles. Nous lui offrons nos vieux meubles. Et il ne peut rien faire là-dedans. Il faut que nous renoncions à nos vieilles coutumes, à ces choses auxquelles nous tenons encore tant. Nous voulons demander davantage du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. Il est là, la plénitude, elle est là, à votre portée, le Saint-Esprit est descendu, et maintenant, il voudrait pouvoir nous abreuver tous. Et nous avons vu, dans la fin de ce chapitre 4, le deuxième petit sommaire, qui nous montre la vie de la communauté primitive. On en a parlé du premier sommaire à la fin du chapitre 2. Maintenant, on a vu ce matin le deuxième sommaire à la fin du chapitre 4. Les premiers chrétiens avaient cessé d'être égoïstes, de garder leurs biens pour eux. Ils les distribuaient selon les besoins de chacun, mais tout cela était volontaire. Et on a fini par l'exemple de ce Barnabas, le fils de Consolation, qui lui a été poussé à vendre un champ et qui en a apporté le prix aux apôtres. Et c'est là qu'a commencé les premiers troubles dans l'Église primitive. C'était si merveilleux. Quand on lit le premier sommaire du chapitre 2, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières. Ils avaient de la joie, il y avait un rayonnement. puis ici, ils partageaient leurs biens parce que personne ne devait être dans le besoin. Et puis, il y a un homme qui a fait cet acte de foi, de se dire, moi, au lieu de garder ce champ pour moi, je le donne pour le bien de tous. Et qu'est-ce qui est arrivé? Voilà le chapitre 5, qui nous montre qu'après que l'ennemi ait cherché à faire du dehors sa lutte contre la vérité, parce qu'au chapitre 4, on voit Satan qui attaque du dehors par les principaux sacrificateurs, mais maintenant, non content d'avoir attaqué du dehors par le monde religieux, voilà Satan qui va s'attaquer à la communauté primitive par l'intérieur, du dedans. Et comment va-t-il s'y prendre? Eh bien voilà, quand un homme comme Barnabas fait un acte pareil, il y a d'autres chrétiens qui se disent, c'est quand même bien ce qu'il a fait. Et qui se disent, pourquoi nous aussi, on a quelque chose qu'on pourrait vendre et on pourrait faire comme Barnabas, parce qu'on avait dit du bien de Barnabas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas du bien de nous? Et il y avait là un couple, un homme et sa femme. Le nom de l'homme était Ananias, c'était un converti, je ne doute pas de son salut. Et Saphira, c'était une femme qui avait fait profession aussi de se convertir. Et nous lisons, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Et il retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc, ils s'étaient mis d'accord. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais ce geste qu'il a fait, il n'a pas dit la vérité, il n'a pas dit « je vous apporte une partie du prix que j'ai reçu ». Il a dit « voilà, ce que j'ai vendu, je vous en apporte le prix ». Et Pierre le regarde et lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Est-ce possible, mes amis, que nous gardions comme chrétiens cet attachement à l'argent qui va peut-être nous faire mentir? Et nous voulons garder les apparences de la piété, nous voulons être comme Barnabas, mais nous n'avons pas la foi de Barnabas, mais on veut essayer d'imiter, et on en arrive à dissimuler. Et le premier péché, là, dans l'Église primitive, ça a été la dissimulation. Je vous en supplie, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est utilisé par le Seigneur que vous devez vous dire, bien moi je veux faire la même chose. Parce que peut-être que le Seigneur ne vous a pas demandé cela. Dites au Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Il a pu me demander à moi certaines choses et je suis responsable vis-à-vis de ce qu'il m'a demandé. Mais je ne vous juge pas parce que vous ne feriez pas les mêmes choses. C'est une question de relation avec le Seigneur. Et nous sommes avertis dans l'Épître aux Romains au chapitre 12 de ne jamais dépasser la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Dieu ne demande pas à tous la même chose. Il a demandé un jour, autrefois, à ce Georges Muller, dont peut-être vous connaissez le nom, qui a fondé les orphelinats, dont on parle encore, Et il y a des personnes qui, ayant lu ce livre, ont dit, mais c'est merveilleux, nous allons faire la même chose. Et puis, ça a été complètement raté. Parce qu'il n'avait pas la mesure de foi de Georges Müller. Ce que Dieu a demandé à Georges Müller, il ne vous le demande pas nécessairement. J'ai connu cette année encore l'histoire de deux jeunes femmes qui sont parties de France par un appel du Seigneur, qui sont allées aux Indes sans même savoir l'anglais et qui, appelées par le Seigneur, ont rassemblé des enfants de la rue. Il n'y a pas que Mère Teresa, hein. On parle toujours de Mère Teresa, mais il y a deux jeunes femmes d'un milieu évangélique qui ont reçu cet appel sans connaître Mère Teresa, pas pour imiter, elles sont parties seules. Il y avait leurs parents, évidemment, qui priaient, qui les soutenaient. Et c'est avec les parents que j'étais il y a deux mois. Eh bien, ils ont ramassé les enfants de la rue, et maintenant, eh bien, ils sont... Elles ont été les mères, en quelque sorte, de 130 enfants. Elles ont commencé avec deux, et puis, voilà, le Seigneur leur en a envoyé, et une est morte. Et sa sœur est restée. Et vous voyez que l'on peut être jeune, servir le Seigneur, et être reprise. Mais elle continue cette œuvre, et cette œuvre subsiste, mais parce qu'il y a eu un appel. Quand on demandait à mon beau-père pourquoi est-ce qu'il avait été en Chine, il répondait simplement « parce que j'ai été appelé ». Et c'est tout. Il était né dans une famille athée, opposée au Seigneur. Quand il s'est converti à 18 ans à l'université de Berlin, il a été chassé de la maison de son père. Et puis, qu'est-ce que ça a donné dans toutes ces épreuves? Il est devenu missionnaire. Il est parti à Londres, et puis après, il s'en est allé en Chine, où il a rencontré sa femme, ma belle-mère, celle dont je vous ai parlé hier, qui disait, si les Japonais nous coupent la tête, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Nous envoyer vers le Seigneur. Alors, c'est pas grave, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la profonde douleur d'aller vers le Seigneur, comme on lit quelquefois sur les faire-part. C'est quelque chose de tragique. On se dit chrétien, et quand un de nos bien-aimés nous est repris, on parle de la douleur de le voir aller vers le Seigneur. Nous devrions être plus près des choses célestes et nous dire, il est dans la paix, dans le repos, il n'est pas perdu. Il nous a devancés. Et toutes ces vies qui nous ont été reprises et qui sont déjà vers le Seigneur nous lient au trône céleste. Oh, que vous puissiez être de ceux et de celles qui acceptent la volonté du Seigneur. Donc, le piège, c'est d'avoir retenu une partie du prix, sa femme le sachant. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu montes au Saint-Esprit, ou que le Seigneur nous parle individuellement et à moi tout premier, et que tu aies retenu une partie du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ananias n'était pas obligé de tout donner. Mais quel était le péché d'Ananias? Il a fait croire qu'il avait tout donné. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Une dissimulation. Or, il y en a beaucoup aujourd'hui de dissimulation. Hein. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Il montre que Satan a tenté Ananias, il a rempli son cœur, mais Ananias a accepté que Satan mette ça dans son cœur, parce que ce n'était pas nécessaire qu'il accepte. Il pouvait dire non. Il y a des choses auxquelles vous pouvez dire non. Vous ne pouvez pas empêcher la tentation, mais vous pouvez dire non. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et je voudrais que ce soit l'Esprit qui vous parle ce soir. Pour qui prenons-nous Dieu? Ananias, ce n'est pas du tout Pierre qui a fait mourir Ananias. Mais Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est dit, ta parole m'a fait vivre. Quand on entend la parole de Dieu et qu'on est dans le chemin du Seigneur, c'est une parole qui nous fait vivre. Mais cette même parole, si on est dans le mensonge, dans la dissimulation, si l'on est dans l'hypocrisie, si l'on veut paraître alors qu'on n'est pas ce que l'on paraît, eh bien, c'est une parole qui nous détruit. On ne parle pas du salut éternel d'Ananias et Saphira. Je pense que ces personnes, ce couple, est sauvé. Mais il a été retranché. Et c'est ce qui peut nous arriver. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur salut. Mais ils ont perdu la possibilité de vivre pour Dieu, d'achever leur course. Ils ont été retranchés avant le temps parce qu'ils ne pouvaient plus être un témoignage. Et vous savez, il y en a plus que vous ne pensez et qui n'achèvent pas la course qu'ils auraient pu achever si, comme Paul, ils avaient prié en disant « Je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la retiens, ni ne la tiens pour précieuse à mes yeux, pourvu que j'achève la course. Et le service qui m'a été confié et que je puisse prêcher l'Évangile avec joie. » Et nous savons qu'à la fin de son existence, Paul a pu dire « J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » C'est quelque chose qui devrait davantage nous préoccuper. La parole doit nous faire vivre. Mais la parole, c'est elle aussi, quand Jésus l'a dit, qui peut nous juger. Nous ne sommes plus un témoignage. Alors le Seigneur peut nous mettre de côté. Les jeunes gens, verset 6, s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Et voilà quelque chose de terrible. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Alors, Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. C'est quand même terrible. » Cette femme qui aurait dû être une aide pour son mari, qui aurait pu dire à son mari, « Tu ne vas pas faire une chose comme ça. Ça ne se fait pas. » Voilà ce qu'une femme pieuse peut dire à son mari. Nous, les maris, les hommes, on peut dérailler, hein. Ça nous arrive souvent. Et heureusement que le Seigneur nous a donné peut-être une compagne qui est sage et qui nous retient de faire une bêtise. C'est pas parce que le mari est soi-disant le chef que la femme doit toujours le suivre. Il faut qu'elle ait une vie personnelle. Vous, mes sœurs, vous devez avoir une vie personnelle avec le Seigneur, comme vos maris doivent avoir une vie personnelle avec le Seigneur. Et si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Et il faut garder cette unité. Priscilla était la femme d'Aquilas. Et nous voyons que ce couple, justement, vivait dans une unité merveilleuse avec le Seigneur. C'était la corde triple qui ne rompt pas vite. Et elle a été une aide pour son mari. Comme il est dit dans les Proverbes au chapitre 30, la femme lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Si un jour, mes chères sœurs qui ne sont pas mariées, vous devenez la compagne d'un homme, quel qu'il soit, mais d'un croyant, parce que il n'est pas question que vous épousiez quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. Hein. Mais si vous devenez la compagne d'un croyant, si vous commencez par cette obéissance, eh bien, soyez pour votre mari cette aide qui va l'encourager, parce que nous avons des tentations. Et le Seigneur vous bénira. Mais ne vous mettez pas d'accord avec ce qui est faux. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre l'a dit. Alors elle a menti, elle aussi. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Ça, elle ne le savait pas. Alors, je pense bien qu'elle a eu une crise cardiaque. Tout à coup, elle apprend, quoi? Mon mari est mort? On l'a déjà enseveli. Parce qu'on fait vite en Orient. On enterre le même jour. J'ai vu un homme qui est mort le matin à Jérusalem. On le portait en bière l'après-midi. Déjà, on l'ensevelissait l'après-midi. À cause de la chaleur. Et la femme tombe morte. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Vous pensez que c'est l'apôtre qui l'a mise à mort? Pas du tout. Mais, dans cette situation, elle est morte. La parole l'a frappée, elle expire. Je le dis bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus, on n'a pas le droit de juger, c'est Dieu qui juge. Mais il est fort possible qu'ils avaient fait profession d'être au Seigneur, mais ils n'ont pas tout donné, alors ils ont été retranchés. Vous voyez que nous devons vivre dans la dépendance de Dieu. Alors qu'est-ce qui est arrivé, verset 11? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. On ne se moque pas de Dieu. Dans l'Église primitive, au début, il y avait un jugement extrêmement sévère. Combien aujourd'hui mourrait si ça se passait ainsi? Si nous ne mourons pas physiquement, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? On meurt spirituellement. C'est la mort spirituelle. Il y a des églises qui sont des vrais cimetières. C'est la mort spirituelle. Et alors nous devons nous réveiller. On ne ment pas au Saint-Esprit. On ne triche pas. On a fait toute une réunion le camp de l'année dernière. Ne pas tricher avec Dieu. Et alors vous avez maintenant la troisième petite portion, le troisième petit sommaire qui nous montre l'Église primitive. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, qui leur était si cher, puisque c'est là que Jésus avait prêché et qu'il avait dit à la fête des dédicaces qu'il était le bon berger et que le berger connaissait ses brebis et que personne ne les ravirait de sa main. Et les apôtres aimaient aller prêcher là où Jésus avait lui-même prêché au portique de Salomon dans le temple. Et il est dit un verset qui doit vous frapper. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Vous voyez qu'il ne faisait pas une propagande évangélique, disant, venez chez nous, c'est chez nous qu'est la vérité, vous serez bien chez nous. Non, c'était pas cela. Il y avait une telle vie que ceux qui devaient être ajoutés étaient ajoutés par le Seigneur. Mais on ne faisait pas une espèce de propagande pour avoir les âmes. Ce qui amène tant de troubles dans les églises. Récemment, dans une ville de France, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, vous vous souvenez d'une conférence que vous avez faite à l'université de Grenoble? J'étais un étudiant là, et je vous ai demandé à la fin de la conférence, dans quelle église pensez-vous que je dois aller? Je suis attiré par deux milieux. Lequel pensez-vous qui est le meilleur? Qu'est-ce que je dois répondre? J'ai dit, vous savez, le jour où vous serez dans l'une ou dans l'autre, ce ne sera plus la bonne église, parce que vous aurez apporté vos misères. Et il s'en était souvenu, n'est-ce pas? Il voulait une église parfaite, mais le jour où on y entre, elle n'est plus parfaite, parce que nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Alors, ne cherchons pas l'église parfaite. Il y avait donc, même dans l'église primitive, des choses qui étaient à reprendre. Mais le Saint-Esprit veillait sur cela. Et à un tel point que ceux qui n'étaient pas vraiment au Seigneur, ils n'osaient pas se joindre à eux. Mais le peuple, alors, les louait hautement. Parce que c'est souvent à cause de ceux qui sont à l'intérieur que les gens ne veulent pas venir dans nos milieux. Mais de personne, on nous connaît trop. On sait quels sont nos défauts, quelles sont nos turpitudes, bien souvent. Ce qui faisait dire à un athée qui vivait justement dans le pays où je me trouvais il y a 3 mois, il avait mis un écriteau dans son jardin parce qu'il avait vu que les chrétiens évangéliques, ils mettaient des écriteaux bibliques aussi, et lui, il avait mis un écriteau devant lequel les frères passaient pour aller à la réunion de prière, et cet athée avait mis « Priez moins et ne volez plus. » Parce que bien de ces chrétiens n'étaient pas adroits en affaires. Mais on allait à la réunion de prière. Et ça scandalisait le monde. Parce qu'on savait cela. Il nous faut être conséquent. C'est pas de mettre des écriteaux bibliques partout qui compte. C'est d'avoir une vie biblique dans le quotidien, dans nos relations avec le monde. Que le monde sache qu'il y a des choses qu'un chrétien ne fait pas. Et que le monde nous reconnaisse comme étant de ceux qui vivent avec Jésus. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, ça c'est quand même drôle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il diminuait puisqu'il ne faisait pas de réclame? Les gens n'osaient pas se joindre à eux. Et pourtant, qu'est-ce qui arrivait? Le nombre augmentait. Vous voyez l'arithmétique de Dieu? Ça se passe outrement. Le nombre s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, on se croirait à Lourdes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. J'aime beaucoup ce verset. Et je me suis posé sérieusement la question. Quel est mon ombre? Vous savez ce que c'est que l'ombre? Hein? Quand on avance, il y a l'ombre là. Hein? L'ombre de Pierre. Quel est notre ombre? Est-ce que vous avez un verset qui pourrait vous donner une explication? Psaume 121. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. L'ombre de Pierre, c'était l'ombre de qui? C'était l'ombre de Jésus, n'est-ce pas? C'était pas l'ombre de Pierre qui guérissait. Quand Pierre passait, son ombre, c'était l'ombre de Jésus. Et il y avait des guérisons faites par Jésus. Et alors, nous autres aussi, si nous étions vraiment esclaves humiliés, et je le dis pour moi-même, et je prie, je ne suis pas en arrivée, je cours, mais j'ai un but, je vois ce qui est devant moi, je sais ce que Dieu peut faire encore. Alors je veux me laisser faire et lui dire, Seigneur, accomplis toutes tes pensées à mon égard. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et les gens tourmentés et les esprits impurs, et quelques-uns étaient guéris, c'est ce que vous avez dans vos versions révisées, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Le Seigneur agissait en plénitude. Alors, est-ce que notre ombre est l'ombre de Satan, ou est-ce que c'est l'ombre de Jésus? C'est ça qui compte. Est-ce que j'amène l'ombre de Satan? Quand vous mentez et dire qu'il y a des chrétiens qui osent encore mentir, leur ombre, c'est l'ombre de Satan. Un chrétien qui ment, son ombre, c'est celle de Satan. Car le diable est le père du mensonge et meurtrier dès le commencement. C'est l'ombre d'un meurtrier. C'est l'ombre du menteur. Voyez-vous, moi je veux prendre la parole de Dieu au sérieux. Je vous prêche ces choses, mais je me prêche à moi-même. Je désire que ce camp nous mène plus loin et me mène plus loin. Parce que nous vivons une heure qui est solennelle. C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et nous ne voulons pas être retranchés. Avant le temps, nous voulons avoir un témoignage. Vous serez mes témoins. Et nous avons vu que quand on n'a pas un témoignage, qu'est-ce qu'il arrive? C'est la mort. Hein? C'est la mort. Ananias et Saphira n'ont pas eu le témoignage. Parce qu'ils ont menti et ne pouvaient plus être témoins. Cependant, alors, sacrificateur, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, on en a déjà parlé, ceux qui ne croyaient pas à la résurrection, se levèrent remplis de jalousie. On les a déjà vus remplis d'orgueil avant, mais maintenant qu'ils voient tout ce qui se passe, ils mirent la main sur les apôtres. C'est la deuxième fois. Et ils les jetèrent dans la prison publique. Ce que Jésus leur avait dit, ils vous mettront en prison, ça leur arrive. Mais, oh, il y a un mais. Qu'est-ce qui les garde? Un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, cachez-vous. C'est ça les paroles de l'ange? Hein? Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple, parce que le peuple a des besoins. Est-ce que nous ne comprenons pas ces besoins du peuple? On nous critique, on nous juge parce qu'on va ici, parce qu'on va là, mais c'est pour le peuple. Et si le peuple ne vient pas dans nos milieux, c'est à nous d'aller vers eux, sans biaiser. Il faut aimer les âmes de l'amour de Dieu. Je pense souvent que Dieu aurait pu dire à son fils, tu sais, c'est trop dangereux d'aller sur la terre. Ils sont pleins de péchés, puis ils vont te tuer. On va sortir l'échelle de Jacob, puis on va dire aux hommes qui veulent te rencontrer de monter. Vous y seriez monté? Hein? Comme ça, le Seigneur serait dans son bureau.
bureau dans le ciel, puis il vous reçoit. C'est grave. Il signe les passeports. Mais il ne vient pas sur la terre, parce que c'est trop dangereux. Il y a des prostituées, il y a des pêcheurs, il y a tout ce que vous voulez. Même la dernière tentation. Non, mais c'est ça. Eh bien, Jésus est descendu. Il s'est mêlé au peuple. C'est pas le contact avec les âmes qui me souillent. C'est de garder du péché dans mon cœur. C'est ça, mes amis. Mais nous devons aimer toutes les âmes, même si elles ne sont pas de notre milieu. Et nous devons être proches de tous. Quand Jésus était proche de toutes les âmes et séparé de toute souillure. Alors, les disciples, délivrés par l'ange, ayant entendu cela, d'aller apporter les paroles de cette vie. Vous voyez, c'est une vie, les paroles de cette vie. Les paroles de cette vie, ce n'est pas une doctrine, c'est une vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin, et c'est le tribunal des Juifs, et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres, où ? À la prison, et ils n'ont pas de renseignements. Hein. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà hors de la prison. Alors les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison, et ils retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Vous voyez, les anges, ils ferment les portes. Vous aussi, vous fermez les portes. Les anges ferment les portes. Mais il y a toujours tout dans l'écriture. Il ne faut pas passer à côté. Il y a 70 sens à chaque verset. Hein. C'est ce que disent les rabbins. Et ce n'est pas des sens contradictoires. Ça nous parle toujours. Et c'est toujours actuel. Il n'y a pas besoin de l'actualiser. C'est actuel. Nous avons trouvé les portes de la prison fermées et les gardes qui étaient devant les portes. Ils n'ont pas vu sortir. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Ça me fait rappeler d'un petit garçon qui avait 9 ans, son père était mort, maintenant il en a 45. Il est venu à ce camp Mahanaïm. Il habite la Belgique. Puis, son père était mort et j'avais été au cimetière avec lui à Verviers, en Belgique, près de la frontière allemande. Puis, je lui expliquais la résurrection. Puis, il me dit, mais on Gaston, alors, le gardien du cimetière, si tous les morts s'en vont qui sont au Seigneur, il va dire, mais mort, mais mort. N'est-ce pas? Où sont-ils? C'était tellement beau de voir les réactions des enfants. Non, ils ne seront plus là. Enfin, c'est leur corps qui était là dans la poussière. Mais ils n'y seront plus. Verset 26. Alors, le commandant partit avec les huissiers. Elle les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Vous voyez que tout à coup, le peuple se met pour les disciples. Après qu'ils eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. De quel homme? Ils ont la mémoire courte. Hein. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et puis maintenant, ils disent, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ils ont mauvaise conscience. Hein. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est la deuxième fois qu'il dit cela, hein. Au chapitre 4, il l'a déjà dit. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite
comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous voyez qu'ils annoncent encore le salut à ces gens. Nous sommes témoins, voilà notre sujet, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui ? À ceux qui lui obéissent. Parce que pour moi, selon l'Écriture, la foi, c'est une obéissance. C'est pas de dire simplement, il n'y a qu'à croire. Le salut, il n'y a qu'à, dont je vous ai si souvent parlé. Il n'y a pas qu'à croire. Hein. La foi, c'est une obéissance. On obéit à la parole du Seigneur. On croit et on obéit. Et c'est ainsi qu'on aime le Seigneur. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Vous voyez qu'ils n'ont pas changé. On a fait mourir le Seigneur, ils veulent les faire mourir. Mais voilà qu'intervient ici un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi qui avait enseigné l'apôtre Paul, comme on le sait, estimé de tout le peuple. Il se lève dans le Sanhédrin et il ordonna de les faire sortir pour un instant. On fait sortir les apôtres, puis il leur dit, « Homme Israël, il parle avec sagesse, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduit à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, qu'est-ce qui lui arrivera? Elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'était une parole très sage. Hein? Et vous voyez qu'à certaines heures, le Seigneur peut employer qui il veut. Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. C'était dans le programme. Le Seigneur le leur avait dit, ils vous battront de verges. Alors quand on les a étendus pour les battre de verges, ils savaient que le Seigneur leur avait promis cela. Et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchaient. Alors est-ce que ces gens, parce qu'on les avait battus de verges, est-ce qu'ils ont abandonné le Seigneur? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les verges les ont attachés davantage au Seigneur. Et c'est ce que devrait faire pour nous la souffrance. Je n'ai jamais vu que la souffrance éloigne un vrai croyant du Seigneur. La souffrance nous rapproche de lui quand on est vraiment au Seigneur. La souffrance éloigne ceux qui ne font profession de la foi chrétienne sans la vie. Mais là où il y a la vie, quand il y a la souffrance, il y a un approfondissement spirituel. Nous sommes amenés à la ressemblance du Christ crucifié. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, affreusement tristes et déçus, révoltés. C'est ça votre traduction? J'aime bien que vous réagissiez hein, et que vous n'acceptiez pas tout ce qu'on dit, mais que vous jugiez vous-même si c'est correct. Ils sont sortis joyeux d'avoir été jugés dignes. Oh, c'est quelque chose. Alors nous, on n'est pas très dignes. Hein. On se dit, on n'en a pas encore eu beaucoup de souffrance. C'est vrai, on a beaucoup parlé de la Chine ces derniers temps. Et il y a quelques années, quand il y a eu un peu de détente et qu'on avait libéré un vieux missionnaire qu'on avait torturé pendant 20 années en prison, il était presque aveugle et sourd, et un missionnaire américain qui l'a vu lui a dit: mais quand vous étiez ainsi en prison, est-ce que vous n'avez pas douté du Seigneur et toutes les souffrances que vous avez eues? Et il a eu un visage lumineux pour lui dire: ces années-là, ça a été une lune de miel avec mon Seigneur. Et nous, on se dit: mais pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Lui, il ne s'est pas posé la question. Il a dit: ça a été une lune de miel avec le Seigneur. Vous avez vu Paul parler de ses rhumatismes en prison, de toutes ses misères? Il leur écrit aux Philippiens: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Et c'est nous qui bénéficions des prisons de l'apôtre Paul. Parce qu'il n'avait pas été en prison, il n'aurait pas pu écrire ses épîtres. Il n'aurait pas eu le temps. Non, mais c'est vrai. N'est-ce pas? Si on y réfléchit, toute chose concourt, travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Eh bien, que cette parole que vous connaissiez déjà, mais que nous ne faisons que méditer ensemble, la repasser dans nos cœurs, agisse et nous transforme. Père, si tu nous as donné les actes des apôtres, ce n'est pas simplement pour un certain Théophile, mais c'est pour nous parler à nous, réunis dans ce camp Mahanaïm, en cette soirée. Et nous voulons te prier que cette parole, revêtue de la puissance de ton esprit, touche nos cœurs. Et que sur un point ou sur un autre, nous nous laissions corriger. Tu viens de nous parler solennellement par l'exemple d'Ananias et de Saphira. Mais tu nous as montré aussi ce que tu étais capable de faire, même avec un apôtre Pierre, qui pourtant t'avait renié, et qui, maintenant, alors que son ombre passait, opérait des guérisons. Son ombre seulement, parce que son ombre, c'était la tienne. Oh, que tu deviennes aussi notre ombre, que partout où nous allions, nous apportions ton ombre à tous ceux qui périssent. Nous te demandons que nos vies soient un rafraîchissement pour les âmes, une ombre contre la chaleur torride de ce désert qu'est le monde. C'est la grâce que nous te demandons ce soir, en te priant de nous bénir, de bénir les enfants là où ils se trouvent, et de nous garder dans ton amour et dans ta paix. Notre attente est en toi, nos yeux sont sur toi. Amen.